La situation internationale, 4 novembre 2013. Les rapports de force internationaux. La crise économique marque à des degrés divers la situation intérieure de tous les pays, mais aussi les relations internationales. C'est pas tant pour ce qui est des relations entre les États d'Europe, dont l'Union, dans le cadre de l'Union européenne ou dans celui plus étroit de la zone euro, est périodiquement mise à mal par les secousses de la spéculation sur les dettes d'État. C'est l'ensemble des relations internationales qui est cependant affecté par l'évolution de la crise et par ses soubresauts. Elles le sont pour le long terme. La longue dépression de l'économie capitaliste mondiale a été accompagnée par des évolutions politiques nombreuses et multiformes, dont le sens général a été réactionnaire, marqué par l'affaiblissement, voire la disparition du mouvement ouvrier conscient comme force politique incarnant une autre perspective que le capitalisme en faillite. La crise a aggravé ces évolutions. La dislocation de l'Union soviétique a donné le coup de grâce au courant stalinien, pratiquement disparu en tant que phénomène original du mouvement ouvrier international, né de la révolution prolétarienne de 1917 comme courant communiste, transformé en son contraire par la dégénérescence de l'État soviétique. Le stalinisme, après avoir joué un rôle décisif dans la liquidation des traditions révolutionnaires du prolétariat, après avoir été déterminant dans le fait que le prolétariat n'a nulle part été en situation de saisir les occasions révolutionnaires pourtant nombreuses, a dû quitter piteusement la scène politique au profit de forces de plus en plus réactionnaires. Le nationalisme progressiste des pays pauvres, largement marqué par le stalinisme qui avait imprégné les luttes d'un grand nombre de peuples opprimés contre la domination coloniale ou semi-coloniale, a à son tour reculé au profit de forces plus réactionnaires. Même si les partis au pouvoir en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam ou à Cuba affichent encore l'étiquette communiste dans leur dénomination, ils ne représentent plus la même force d'attraction aux yeux des peuples opprimés que dans le passé. L'arrivée au pouvoir de Khomeini en Iran en 1979 a marqué une étape dans cette évolution. D'un bout à l'autre du monde arabo-musulman, l'islamisme politique a pu, dans une certaine mesure, prendre la place du courant tiers-mondiste en canalisant à son profit les conséquences de l'immense misère et du sentiment d'oppression des couches les plus pauvres de la société. Celles-ci se trouvaient privées des perspectives incarnées au lendemain de la Révolution russe par le communisme et, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, par des courants petits bourgeois nationalistes qui prirent la tête de la lutte contre la domination coloniale ou semi-coloniale. Ces deux évolutions, celle de la crise de l'économie capitaliste et celle dans le domaine politique et social, interagissent en permanence. La crise économique obéit aux mécanismes fondamentaux de l'économie capitaliste et l'absence de perspectives révolutionnaires communistes laisse les mains libres à la bourgeoisie. Cependant, l'absence d'une autre perspective pour la société que la perpétuation du capitalisme et la domination de l'impérialisme sur le monde renforce à son tour la désorientation, la perte de boussole des masses opprimées. Dans les pays impérialistes les plus riches, on assiste à la montée des courants d'extrême droite, du Front national en France au Tea Party aux États-Unis, en passant par toutes les formations qui véhiculent avec plus ou moins de véhémence des idées racistes et xénophobes. Dans les pays de l'Est européen et balkanique, avec leurs diverses populations entremêlées, c'est la montée de ce nationalisme agressif qui a abouti, à partir de 1991, à 10 ans de guerre dans l'ex-Yougoslavie, avec entre 200 000 et 300 000 morts et 1 million de personnes chassées de chez elles. La montée de chauvinismes opposés menace dans d'autres pays d'Europe centrale et balkanique, en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie. Dans cette région, morcelée et découpée au gré des rapports de force entre camps impérialistes, les nationalismes virulents se doublent d'irrédentisme, chacun des États convoitant des territoires chez le voisin ou craignant d'être victime de ses convoitises. En Afrique, ce manque de perspective pour la société se traduit par la virulence de l'ethnisme qui, après les conflits interethniques au Libéria, en Sierra Leone, au Rwanda, continue à sévir au Congo et menace de ressurgir dans bien d'autres pays où l'évolution capitaliste imposée de l'extérieur n'a pas fondu les ethnies dans un creuset plus vaste. Les relations internationales se modifient dans ce contexte. Pierre angulaire de ces relations internationales pendant les 4 décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les relations entre les États-Unis en tant que puissance impérialiste dominante et l'Union soviétique ont perdu une grande partie de leur pertinence avec l'éclatement de l'Union soviétique. Mais pas complètement. Les années Eltsine ont été calamiteuses pour la Russie qui, après la dislocation de l'Union soviétique, se disloquait à son tour pendant que les clans bureaucratiques tentaient de vendre l'économie du pays en pièces détachées. Les États-Unis, devenus l'unique superpuissance du monde, profitaient de l'opportunité pour empêcher que la Russie redevienne une puissance qui compte sur la scène internationale. L'OTAN s'est élargie non seulement vers plusieurs pays de l'Est, ex-démocratie populaire, mais également vers les pays baltes, avec la volonté d'y intégrer d'autres républiques ex-soviétiques comme l'Ukraine et la Géorgie. La relative consolidation du régime sous Poutine n'a pas eu la possibilité de refaire une superpuissance de l'État russe, le principal héritier de feu l'Union soviétique. Elle a redonné cependant à la Russie une place dans le concert des grandes puissances. La Russie reste une grande puissance par sa taille, ses ressources, sa force militaire, mais aussi parce qu'elle bénéficie, dans le domaine diplomatique, dans le jeu des alliances, de relations datant de l'époque de l'Union soviétique. Elle est en situation de mener une politique internationale en fonction de ses intérêts propres, y compris lorsqu'ils divergent, voire s'opposent à ceux des États-Unis. On l'a encore vu avec l'affaire syrienne. Malgré leur déclin périodiquement annoncé et tout aussi périodiquement exagéré, les États-Unis, même débarrassés de l'Union soviétique comme rival avec laquelle ils devaient partager la planète, restent la puissance impérialiste dominant le monde. Ils subissent les effets de la crise qui les affaiblissent. Ils en sont même le principal facteur. Ils sont cependant les seuls à pouvoir en rejeter les conséquences sur le reste du monde, y compris, dans une certaine mesure, sur les autres pays impérialistes. Ils en ont la possibilité du fait que leur dollar continue à dominer les échanges internationaux, du fait surtout que cette domination du dollar est le reflet de la domination de l'impérialisme américain sur l'économie internationale. Les États-Unis dominent largement l'appareil productif mondial. La mainmise de leurs trusts sur les entreprises à l'étranger est 3 fois plus importante que celle des trusts britanniques, leurs suivants immédiats. Les grandes banques américaines dominent le système bancaire mondial. Les États-Unis restent en tête de la recherche et des nouvelles technologies. Leur flotte de guerre est présente dans toutes les mers du globe. Leurs bases militaires enserrent toute la planète dans un fin maillage de surveillance, sans parler de leur réseau d'espionnage et de surveillance de toutes les communications qui indignent si bruyamment les dirigeants des autres puissances impérialistes qui aimeraient bien en faire autant mais n'en ont pas les moyens. Les États-Unis restent les gendarmes en chef de l'ordre impérialiste mondial. Ils ont encore 60 000 hommes en Afghanistan, 2 fois plus qu'au début de la présidence d'Obama. En Irak, la fin de l'occupation américaine est une fiction. L'armée a été simplement remplacée par des contractuels. Dans la zone tribale du Pakistan, comme au Yémen, les États-Unis mènent une guerre qui ne dit pas son nom. Pas plus que dans le passé, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les puissances impérialistes de seconde zone, notamment celles d'Europe, ne sont capables de disputer aux États-Unis leur place d'impérialisme dominant. La crise en général, et les soubresauts spéculatifs en particulier, ont montré les limites de cette Union européenne dont ses partisans laissaient entendre qu'avec son territoire, le nombre de ses habitants, sa puissance industrielle, elle serait capable de rivaliser avec les États-Unis, voire de leur contester le leadership du monde impérialiste. Mais, justement, l'Europe capitaliste n'a réussi qu'un simulacre d'unification. Dans l'incapacité de se donner un État unifié, une bourgeoisie unifiée, le capitalisme européen est et reste une juxtaposition de capitalisme avec des bourgeoisies qui, pour avoir partiellement uni leur destin, n'en sont pas moins rivales. Rivales, en tout cas, les principales puissances impérialistes. Allemagne, France, Grande-Bretagne et, dans une moindre mesure, les autres impérialismes d'Europe occidentale. Pour ce qui est des pays de la partie orientale de l'Europe et des Balkans, qu'ils soient déjà intégrés dans l'Union européenne ou qu'ils aspirent seulement à y entrer, ils sont condamnés au rôle de régions subordonnées, soumises à la loi des trusts des impérialismes d'Europe occidentale. À l'intérieur de l'Union européenne, si mal et si peu unifiée, les principaux impérialismes jouent chacun leur jeu. C'est une évidence assumée par la Grande-Bretagne qui refuse y compris de participer à la zone euro. elle mène une politique marquée par son ouverture vers son ancien empire colonial et par ses relations privilégiées avec l'impérialisme américain. L'Allemagne, elle, profite de la fin de l'ancien bloc soviétique pour reprendre sa politique d'expansion vers l'Est, dans et hors Union européenne. Quant à la France, elle reste une puissance impérialiste de seconde zone, non seulement par rapport aux États-Unis, mais aussi, dans une large mesure, par rapport à sa partenaire et néanmoins rivale, l'Allemagne. Cependant, ses grandes entreprises, notamment ses banques, son hôtellerie, son automobile, participent largement, aux côtés de l'impérialisme allemand, à la mise en coupe réglée des pays de l'Est européen, Grèce comprise. Les postures va-t-en-guerre de Hollande en faveur de l'intervention armée en Syrie, aussi longtemps que telles ont semblé être les intentions des dirigeants américains, puis suivies d'un recul lamentable dès que les États-Unis eurent choisi le compromis qui a sauvé Assad, ont montré à la fois les ambitions de l'impérialisme français, mais, plus encore, qu'il n'avait pas les moyens de ses prétentions. C'est vis-à-vis de son ancien empire colonial que la France joue à la grande puissance et aux gendarmes de l'ordre impérialiste. Sous le gouvernement socialiste, la politique impérialiste de la France prend une allure particulièrement belliqueuse, illustrée cette année par l'intervention au Mali. Il est fort probable que l'armée française intervienne également, directement ou par le biais de troupes tchadiennes, en République centrafricaine, où la chute de Bozizé et la prise du pouvoir par des bandes armées ont conduit au délitement complet de l'État. Par ailleurs, malgré l'endettement croissant de l'État français, le gouvernement socialiste a repris à son compte la politique impérialiste de tous ses prédécesseurs. Il en est ainsi pour le soutien à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, installé au pouvoir par une intervention des troupes françaises sous Sarkozy contre un Laurent Gbagbo qui, pourtant, se revendiquait, entre guillemets, de l'international socialiste. Il en est ainsi du maintien de bases militaires françaises dans un grand nombre de pays d'Afrique pour soutenir des régimes plus ou moins autoritaires et corrompus, mais dévoués à l'impérialisme français. La France-Afrique, dénoncée par le Parti socialiste lorsqu'il était dans l'opposition, continue de plus belle. Le renforcement de la, entre guillemets, poussée vers l'Est de l'impérialisme, allemand bien sûr, mais aussi français, accentue les relations conflictuelles entre l'Europe et la Russie. Cette dernière, dans son désir de maintenir des relations particulières avec ce qu'elle appelle, entre guillemets, l'étranger proche, c'est-à-dire avec les États issus de la dislocation de l'Union soviétique, se retrouve en conflit feutré avec l'Union européenne, se disputant l'influence sur les États à la lisière européenne. Moldavie et surtout Ukraine, ainsi que Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. Les États-Unis après la réélection d'Obama. Obama a donc été réélu en novembre 2012 pour 4 années supplémentaires à la présidence des États-Unis. Sa réélection s'est faite en l'absence des quelques illusions électorales qui existaient en 2008. Elle est plus due à l'arrogance des républicains, à leur mépris, entre guillemets, des assistés, c'est-à-dire des travailleurs, à leur servilité à l'égard de la grande bourgeoisie, quand ils n'en font pas directement partie, qu'à la politique d'Obama. L'abstention a atteint 48% des inscrits, bien plus dans les catégories populaires, et Obama a perdu 4 millions d'électeurs. Sur le fond, sa politique ne se distingue pas de celle des républicains. Guerres à l'extérieur, sauvetage des banques et des grandes entreprises à coups de milliers de dollars qu'il a fait payer à la population laborieuse au travers de coupes dans les services publics, des licenciements, des réductions de salaires et de prestations sociales. Si les républicains ne l'ont emporté ni à la présidence ni au Sénat, c'est que leur campagne extrêmement réactionnaire a effrayé une partie de l'électorat. L'extrême droite du parti, le Tea Party, a pesé sur la campagne comme sur le choix des candidats, mais la plupart des candidats de cette tendance au Sénat ont été battus. À la Chambre des représentants, les républicains ont obtenu moins de voix que les démocrates, mais plus de sièges, grâce au savant découpage de circonscriptions auxquelles se sont livrés les républicains dans les 26 États qu'ils contrôlent. La dette de l'État fédéral atteint maintenant quelque 17 000 milliards de dollars, soit plus que la dette cumulée de tous les autres États du monde. Cette dette a été creusée par les milliers de milliards de dollars injectés dans l'économie depuis 2007, notamment pour renflouer les grands établissements financiers. Républicains et démocrates se sont livrés à plusieurs reprises à des querelles politiciennes spectaculaires autour de cette dette colossale, destinés à préparer la population à de nouveaux sacrifices, car ils sont bien d'accord pour en exiger davantage. Si les républicains réclament systématiquement de tailler dans les services publics et les dépenses sociales, les démocrates leur emboîtent le pas le plus souvent. Ensemble, ils ont augmenté les impôts alors même qu'ils économisent sur des milliers de programmes et de services dans la santé, l'éducation, les travaux publics, la protection de l'environnement, la sécurité au travail, la sécurité alimentaire, le contrôle des médicaments, etc. Lors des dernières coupes, ils ont réduit les allocations des chômeurs de longue durée et ont supprimé les emplois de dizaines de milliers d'enseignants et d'employés du secteur public. Ils ont diminué la paye de centaines de milliers d'employés fédéraux en leur imposant des jours chômés non payés. Ils veulent couper dans les programmes fédéraux pour la retraité, que ce soit leur assurance médicale ou leur pension de retraite. Simultanément, ils accordent cadeaux fiscaux sur cadeaux fiscaux aux riches et aux grandes entreprises. Les grandes sociétés, Amazon, Google, Apple, etc., payent des impôts dérisoires ou nuls par l'optimisation fiscale, c'est-à-dire la domiciliation dans des paradis fiscaux aux quatre coins du monde, ou des États-Unis, comme le Nevada ou le Delaware, qui comptent plus de sociétés que d'habitants. Aujourd'hui, nombreuses sont les grandes entreprises et les banques qui payent peu ou pas d'impôts fédéraux, et certaines reçoivent même des milliards de dollars en crédit d'impôt. Enfin, le gouvernement a englouti des milliers de milliards de dollars dans deux longues guerres, en Irak et en Afghanistan, ainsi que dans toutes les guerres qu'il alimente sur tous les continents, au profit des compagnies pétrolières, des fabricants d'armes et des banques. La presse évoque régulièrement la reprise aux États-Unis. Mais si le taux officiel du chômage baisse légèrement, 7,5% contre 12% en Europe, il semble que ce soit surtout parce que de nombreux sans-emploi renoncent à en chercher et disparaissent ainsi des statistiques. Signe révélateur, la participation au marché du travail, la population au travail par rapport à la population en âge de travailler, est tombée à 63,5%, au plus bas depuis la fin des années 1970. Le gouvernement fédéral ne s'y trompe pas. Malgré l'endettement colossal, il continue d'injecter chaque mois 85 milliards de dollars dans le système financier. En réalité, l'administration fédérale, pas plus que quiconque, ne sait si l'économie va repartir. La grande bourgeoisie continue à accumuler des fortunes. Les grandes banques font des profits records. La production de voitures approche des records historiques et les constructeurs automobiles, dont certains s'étaient déclarés en faillite en 2009, ont renoué avec les profits réalisés à travers une surexploitation des travailleurs. Des millions de véhicules produits en plus, avec des centaines de milliers de travailleurs en moins et avec des salaires et des prestations sociales réduits de moitié. La mise en faillite de Détroit illustre la guerre que le grand capital mène dans tout le pays contre les travailleurs et contre les plus pauvres. Autrefois prospère, la ville a été ruinée par ses propres dépenses pour aider les grandes entreprises, terrains, infrastructures, cadeaux aux promoteurs, ainsi que par les capitalistes de l'automobile qui ont taillé à la hache dans les effectifs pour préserver ou augmenter leurs profits. Le plénipotentiaire nommé par le gouverneur doit en principe redresser les finances municipales. Mais il s'agit surtout de s'assurer que la dette sera bien remboursée aux banques et aux gros créanciers, quitte à saigner la population et à vendre tous les services publics, quitte aussi à ce que la ville prive ses employés de leur retraite et de leur assurance médicale. Sur les 18 milliards de dollars de dette de la municipalité, 9 sont dus à la caisse de retraite des employés municipaux et à la caisse maladie de ceux qui sont retraités. Ce sont évidemment ces dettes que la bourgeoisie ne voudrait pas honorer. À travers le cas de Détroit, la plus grande ville jamais mise en faillite, les classes riches visent l'ensemble des travailleurs américains. Bien des villes sont endettées pour les mêmes raisons et partout les municipalités imposent des sacrifices à leurs salariés. Licenciements, réduction de salaire, jours chômés non payés, coupes dans leur assurance maladie et ou dans leur retraite, et des coupes dans tous les services publics. L'attitude de la municipalité de New York, lorsque la ville a été frappée par le cyclone Sandy, était révélatrice. Les habitants de la partie de la ville la plus touchée par le cyclone ont été livrés à eux-mêmes, coupés de tout pendant plusieurs jours, alors que les autorités s'empressaient de remettre en route la bourse, le Stock Exchange. Partout, l'avidité de la bourgeoisie, son parasitisme, vide les caisses publiques et sème la ruine et la désolation. les 20% les plus riches accaparent 84% de la richesse nationale, tandis que les 40% les plus pauvres n'ont que 5% de cette richesse à se partager. La crise immobilière, qui a détruit des quartiers entiers, n'est pas encore terminée. Des familles sont expulsées de leurs logements et les banques, qui ont accaparé quantité de maisons saisies, les conservent en attendant que les prix montent, si bien qu'il est toujours aussi difficile de se loger. Quant à la grande réforme d'Obama, celle de l'assurance maladie, c'est avant tout un cadeau aux compagnies d'assurance qui vont voir affluer des millions de nouveaux clients. Mais les reculs d'Obama, qui a reporté l'obligation pour les entreprises d'assurer leurs salariés et qui laisse les États républicains refuser d'appliquer la réforme, font que quelque 30 millions de personnes n'auront toujours pas de couverture médicale. Quant aux autres, leur prime d'assurance pourra être faible, mais leur couverture sera alors minimale et laissera à leur charge des sommes si importantes que certains renonceront toujours à se faire soigner, tout en ayant contracté une assurance, puisque ce sera obligatoire sous peine d'amende. Face à ces offensives de la bourgeoisie, les directions syndicales, loin d'aider les travailleurs à se défendre, veulent avant tout se montrer comme des partenaires loyaux des patrons et s'efforcent de faire accepter les sacrifices aux salariés. C'est évidemment une politique qui les affaiblit, d'autant que, dans une série d'États tenus par les républicains, les gouverneurs sont passés à l'offensive pour faire adopter des lois mettant fin au prélèvement automatique des cotisations syndicales par le patronat. L'Union européenne en année électorale. Pour ce qui est de l'Europe, le moment politique marquant de l'année qui vient sera les élections européennes. C'est le volet le plus tape à l'œil du décorum démocratique qui entoure la construction européenne. L'électorat de tous les pays de l'Union européenne sera convié en même temps à élire ce Parlement européen qui est un moulin à paroles avec aussi peu de pouvoir que les parlements nationaux de la démocratie bourgeoise. Tout en considérant les élections européennes comme faisant partie du même contexte électoral que les municipales où nous interviendrons autour des mêmes axes pour, entre guillemets, faire entendre le camp des travailleurs, nous prendrons bien entendu aussi position sur l'Union européenne. Nous exprimerons notre position non pas à l'Union ni à l'Europe, mais au fait que les institutions mises en place par les bourgeoisies d'un certain nombre de pays ne sont ni une Union ni l'Europe. C'est une union dont la raison d'être fondamentale est la circulation des capitaux et des marchandises. Le sort réservé aux Roms éclaire ce qu'il en est de la libre circulation des personnes. Quant à parler d'Europe, c'est une escroquerie, puisque plus de la moitié du territoire de l'Europe et un tiers de sa population ne font pas partie de l'Union européenne. C'est une fausse union qui reste un assemblage d'États dont certains, impérialistes, en dominent d'autres et entre lesquels les oppositions d'intérêts n'ont en rien disparu. L'Europe compte aujourd'hui plus de frontières qu'il y a près de 60 ans lorsque les premières pierres de l'Union européenne ont été posées. Et la multiplication de ces frontières, au lieu de régler les problèmes des minorités nationales, les a au contraire aggravées. Nous redirons dans ces élections, comme nous l'avons fait lors des précédentes, que l'unification de l'Europe même sur des bases capitalistes aurait été un progrès. Mais, justement, la bourgeoisie n'est plus capable de politique de progrès dans aucun domaine. Nous redirons que nous sommes contre les frontières nationales et les barrières protectionnistes qui morcellent l'Europe et son économie. Contre toutes les formes de démagogie chauvine, ouvertes ou feutrées, contre le protectionnisme qui ne protège que les intérêts capitalistes, pas ceux des exploités, nous affirmerons la conviction que, entre guillemets, les prolétaires n'ont pas de patrie. Nous affirmerons que le sens de ce combat pour le communisme est l'expropriation du grand capital et que l'avenir d'une Europe débarrassée de la dictature du capital est à la suppression des frontières, à une Europe unifiée mais sans barbelés autour, ouverte au monde. Nous y affirmerons qu'être communiste, c'est être internationaliste, car la société du futur, débarrassée de la propriété privée et de l'exploitation, ne pourra être réalisée qu'à l'échelle internationale. Pour ce qui est de toutes les revendications se situant dans le cadre de la société capitaliste d'aujourd'hui, nous privilégions celles qui unifient les combats de la classe ouvrière et nous rejetons celles qui divisent et, à plus forte raison, celles qui établissent une hiérarchie entre les peuples. La Russie. Depuis 2007-2008, le dernier avatar de la crise mondiale a remis à l'ordre du jour ce qu'il est advenu de l'économie ex-soviétique. pillé par une foule de parasites, mis en pièces, ce qu'il en reste continue de se délabrer. Cela sans que, plus de 20 ans après la disparition de l'URSS, de la propriété étatique et de la planification, rien n'ait pu relancer l'économie à l'échelle de cet immense pays, et certainement pas, entre guillemets, l'initiative privée, autre nom pour l'appât du profit capitaliste. Les investissements productifs privés sont au point mort. Grands projets tenus à bout de bras par des financements publics qui n'en peuvent mais, alors que ce sont les moteurs de l'économie russe. Usines vieillissantes dont les coûts de production sont devenus si élevés que les marchandises qui en sortent coûtent plus cher que leur équivalent produit à l'étranger. Alors, les autorités annonceront-elles à nouveau que, entre guillemets, l'époque des décisions simples étant révolue, selon Medvedev, elles vont engager, entre guillemets, ces réformes structurelles que le FMI ou la Banque mondiale lui reprochaient encore récemment de différer? La décision n'est pas, entre guillemets, si simple quand les capitaux manquent à l'appel. Car, la faillite chypriote l'a rappelé avec force, les nantis de Russie, bureaucrates de tout rang et bourgeois de tout poil confondus, continuent d'envoyer vers des paradis fiscaux une grande partie de ce que leur rapporte ce qu'ils prélèvent dans ce pays. Décider de fermer des usines dites non rentables n'est pas simple non plus, même si de tels exemples ne manquent pas en Russie. Celle-ci faisant vivre des villes entières, ces centaines de monovilles, en fait de mono-industries qui ont formé la trame du développement industriel à l'époque soviétique, leur fermeture menace d'explosion sociale. Et il ne faut pas oublier que ces sites industriels, même vieillis, restent dans bien des cas une des principales sources de revenus d'une foule de bureaucrates locaux et surtout le garant de leur poids social et politique. Confronté au contre-coup de la crise mondiale, le Kremlin, qui cherche à faire des économies tout en marchant sur des œufs, commence à appliquer mesures d'austérité et restrictions budgétaires. Gèle des salaires de 1,5 million de fonctionnaires, alors que l'inflation, autour de 7%, ne ralentit pas. Hausse des tarifs des services publics. Introduction d'un système de quotas de consommation d'électricité ou d'eau, ce qui se traduit par des privations et des factures en hausse pour la population. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, début 2000, le régime en appelle ouvertement au nationalisme, aux mânes de la grande Russie des tsars ou aux souvenirs de la grande puissance soviétique du temps de Staline, pour tout à la fois redorer son prestige et faire oublier à la population que seuls 10% d'entre elles, estimation de l'Académie des sciences de Russie, ont gagné à l'effondrement de l'URSS. Le pogrom de Biryulevo, Moscou, montre, après d'autres du même genre, comment la propagande xénophobe officielle se traduit dans les faits et comment les autorités trouvent leur intérêt à désigner des boucs émissaires, entre guillemets, étrangers, à la colère de la population, de peur qu'elle ne veuille s'en prendre aux hommes du pouvoir et aux nantis, qu'ils soient de hauts bureaucrates ou des bourgeois. Poutine semble avoir réussi à juguler la contestation anti-Kremlin soutenue en 2011-2012, massivement mais passivement, par la petite ou moyenne bourgeoisie urbaine. Il a pu s'offrir le luxe de faire remettre en liberté Navalny, figure de proue des manifestations de 2011-2012, pour qu'il puisse se présenter à l'élection municipale de Moscou en septembre 2013. Il y a été largement, et apparemment sans trop de tricherie, battu par le maire en place, candidat du pouvoir. Retombée, la contestation des petits bourgeois de la capitale n'a pas trouvé à s'exprimer fortement dans les urnes. La réactivation de la poussée de l'Union européenne et plus largement des puissances impérialistes en direction de certains États issus de l'URSS, Ukraine, Arménie, Géorgie, n'a pu que conforter Poutine dans sa posture de défenseur de la communauté russe assiégée de toutes parts. Le bras de fer opposant Moscou à Kiev, tenter de signer un accord d'association avec l'Union européenne alors que le Kremlin voudrait faire entrer l'Ukraine dans son union douanière avec la Biélorussie et le Kazakhstan, rappelle que la, entre guillemets, politique des blocs n'a pas disparu avec l'URSS. Le Kremlin, qui n'a guère de mal à montrer que les États impérialistes sont les premiers responsables de cette tension, s'en sert pour renforcer sa propre position intérieure. Cela a contribué à faire taire une partie de l'opposition de droite et petite bourgeoise. Avec les effets, même indirects, de la crise mondiale, il est probable que cela pèse également sur le moral de la classe ouvrière, dont les luttes grévistes marquent le pas par rapport aux années précédentes. La Chine. Le ralentissement de l'économie chinoise s'est confirmé en 2013. Alors que le PIB progressait de 10% par an depuis 1990, cette croissance a maintenant décéléré à 7,5%. Cela s'explique notamment par l'impact de la crise mondiale sur les exportations chinoises, qui représentaient 36% du PIB en 2007, 26% en 2009. Mais même ces chiffres ne sont sans doute que la partie émergée d'un iceberg fait de dettes cachées, de banques fragiles et de spéculations immobilières. La bulle du crédit n'a cessé d'augmenter. Depuis 2007, l'encours des banques a plus que doublé. Si l'endettement de l'État central reste à un niveau faible, 14% du PIB, en comparaison avec celui des pays occidentaux, ce chiffre est en trompe-l'œil. Depuis 2008, l'État a injecté dans l'économie des sommes considérables. On sait depuis longtemps qu'il ne comptabilise ni les emprunts des collectivités locales, ni ceux d'administrations parfois lourdement endettées, comme le ministère du chemin de fer, ce qui amène la dette cumulée à 45% du PIB. En outre, pour se financer, les collectivités ont créé des structures de financement opaques, les entre guillemets, plateformes de financement des gouvernements locaux, dans un écheveau que le pouvoir central se dit incapable de démêler, s'avouant donc incapable d'évaluer cette dette cachée. La spéculation immobilière atteint des niveaux élevés depuis des années. Si le pays consomme près de 60% du ciment produit dans le monde et 43% du matériel de construction, ce n'est pas seulement en raison de la croissance de la population urbaine. La presse a rapporté la multiplication entre guillemets des villes fantômes comme Kangbashi, un quartier de la ville d'Ordos en Mongolie intérieure, construit pour accueillir 1 million d'habitants et qui en compte 30 000. Quelques 70 millions de logements seraient inoccupés. Des autoroutes et des aéroports sont sous-utilisés. Cela n'empêche pas le boom de la construction de se poursuivre, comme cela s'est passé aux États-Unis ou en Espagne. Comme l'explique un financier, ouvrez les guillemets, il faut bien continuer à financer l'immobilier et, pour cela, attirer les investisseurs en leur offrant une épargne mieux rémunérée que la moyenne. Fermez les guillemets. La question n'est pas tant de savoir si cette bulle éclatera, mais quand au juste et quelles en seront les conséquences. Certes, l'ascension de la Chine sur la scène mondiale se poursuit. C'est le premier producteur mondial de charbon, d'acier, d'aluminium, d'engrais, de ciment, de textiles, de téléviseurs, d'ordinateurs, de téléphones, etc. La Chine est, en volume, la deuxième économie mondiale et elle possède des réserves de change parmi les plus élevées au monde. Si l'on rapporte ces niveaux à son immense population, le PIB par habitant du pays reste cependant modeste, de 5 400 à 7 600 $ par an selon les méthodes de calcul, classant la Chine autour du 90e rang mondial, derrière la République dominicaine, la Tunisie ou l'Albanie. Nous avons déjà eu l'occasion de souligner le rôle de l'étatisme dans le développement passé et présent de l'économie chinoise. Non seulement l'État a posé les bases du développement sous Mao Zedong, non seulement il a orchestré l'essor de la production depuis Deng Xiaoping, mais il continue de jouer un rôle déterminant dans tous les secteurs de l'économie. Il fixe les taux d'intérêt bancaire et le cours de la monnaie sur le marché mondial. Il fixe en réalité les prix et la répartition des facteurs essentiels de production. 4 grandes banques, entièrement contrôlées par l'État, contrôlent à elles seules la moitié de tous les actifs bancaires, tandis que les autres établissements de crédit sont souvent liés aux autorités locales. L'État contrôle l'essentiel des ressources foncières, ainsi que toutes les grandes entreprises. Plusieurs analyses soulignent même que, depuis la crise de 2008, le contrôle de l'État se renforce. L'État, qui joue un rôle stabilisateur, sans lequel le pays serait dépecé par la bourgeoisie chinoise et étrangère, comme il l'était avant 1949, continue de veiller à un certain développement national. Cette emprise de l'État, omniprésent dans les domaines vitaux de la société, n'est nullement contradictoire avec l'enrichissement de la bourgeoisie chinoise. Les milieux d'affaires et la caste pléthorique des responsables politiques et administratifs s'entremêlent étroitement, pour ne pas dire qu'ils fusionnent. Pour ne citer que quelques exemples, le dirigeant de la société de construction aéronautique Comac est aussi le gouverneur de la province du Hebei. L'ancien président de la plus grande firme automobile chinoise est devenu gouverneur adjoint de la province de Jilin. le patron de Chinalco, China Aluminium Company, est devenu vice-président du Conseil des affaires d'État, vice-premier ministre, etc. La Chine n'a jamais cessé d'être un État bourgeois, même après 1949. Mais, alors que pendant la période maoïste, l'enrichissement des cadres et privilégiés du régime était caché et strictement mesuré, il est maintenant sans phare ni limite. La succession au sommet de l'État, actée lors du congrès du Parti communiste, PCC, en novembre 2012, s'est déroulée comme prévu en mars 2013. Tout au plus, parfois, entreaperçoit-on le résultat de luttes entre clans et individus parmi les dirigeants du pays, comme lors du procès de Bo Xilai. Fils d'un des héros de la révolution maoïste, cette ancienne étoile montante de la direction du PCC a été condamné à la prison à vie pour, entre guillemets, corruption, détournement de fonds et abus de pouvoir. Après s'être précisément fait une réputation de pourfendeur de la corruption lorsqu'il était dirigeant du parti à Chongqing. Qui peut douter que son procès recouvre un règlement de compte au sommet ? La corruption est d'autant plus stigmatisée par les officiels qu'elle touche tous les échelons du pouvoir, du plus bas au plus élevé, du maire de petite ville au chef d'État, dans des proportions diverses bien sûr. L'ex-premier ministre Wang Jiabao a multiplié pendant 10 ans les déclarations contre la corruption et pour, entre guillemets, l'harmonie sociale. On sait maintenant qu'avec sa famille, les Wen ont accumulé quelque 2,1 milliards d'euros d'actifs. Quant au nouveau président de la République populaire, Xi Jinping, également, entre guillemets, « prince rouge », comme on appelle les fils de dirigeants du régime, sa famille possédait déjà, avant son accession au pouvoir, plusieurs propriétés luxueuses à Hong Kong et des dizaines de millions de dollars dans diverses affaires. L'appartenance au cercle dirigeant est gage d'enrichissement personnel. La surexploitation de la classe ouvrière chinoise et l'intégration de quelque 300 millions de ruraux appauvris dans la production manufacturière et la construction ont été les principaux fondements de la croissance chinoise depuis 30 ans. Si les multinationales américaines, européennes ou asiatiques continuent d'extraire une plus-value considérable du prolétariat du pays, la bourgeoisie de ce pays, moyenne et grande, s'enrichit aussi rapidement. La classe ouvrière continue de payer au prix fort l'industrialisation et l'urbanisation du pays, et cela de mille manières. Journées de travail interminables, absence de jours de repos, punitions physiques, empoisonnement professionnel, accidents du travail, amputation des salaires par des retenues, retard de paiement, licenciements, etc. S'y ajoutent la pollution, les scandales sanitaires et alimentaires, les expropriations liées à des projets industriels, immobiliers, etc. Il est difficile d'évaluer les luttes que mène la classe ouvrière chinoise, la plus vaste au monde. Ces combats sont manifestement difficiles en raison de la répression politique et de la collusion entre le syndicat unique, le patronat et les autorités. Différents échos témoignent cependant de la multiplication des luttes et des grèves sur les conditions de travail et les salaires. Et la hausse de ceux-ci, de l'ordre de 15% par an dans les régions côtières, les plus industrialisées et les plus peuplées, n'a pas d'autre explication. En revanche, il ne semble pas que s'exprime, même de façon minoritaire, une perspective politique incarnant les intérêts du prolétariat. Celle-ci a existé en Chine, mais a été anéantie avec l'écrasement de l'opposition de gauche trotskiste sous Chiang Kai-shek dans les années 1930 et 1940, puis sous le régime maoïste. C'est de la renaissance de cette tradition que dépend, en dernier ressort, l'avenir du prolétariat chinois. Après, entre guillemets, le printemps arabe, la réaction en marche en Tunisie et en Égypte. Près de 3 ans ont passé depuis le début de ce qu'on a nommé, entre guillemets, le printemps arabe. Dans les différents pays concernés, la transition démocratique qu'il était censé porter se révèle être un mirage. Si des espoirs se sont éveillés alors parmi les masses populaires, ils ont été en grande partie déçus. La Tunisie, le premier pays à s'être débarrassé de son dictateur Ben Ali et à avoir donné le coup d'envoi des mouvements, entre guillemets, du printemps arabe, est en pleine crise politique. L'assassinat de 2 militants de gauche en moins de 6 mois a mis en difficulté le pouvoir dominé par le parti islamiste Ennahda, accusé de complicité. Mais la crise se déroule sur le fond d'une profonde crise sociale. La misère n'a fait que croître pour la majorité de la population, dont les manifestations de mécontentement se multiplient, tandis que le pouvoir politique se discrédite. Mais c'est en Égypte que l'évolution est la plus significative, et aussi la plus déterminante du fait de l'importance du pays et de son rôle politique central dans le monde arabe. Le coup d'État du 3 juillet dernier a mis fin au gouvernement des frères musulmans dirigé par Mohamed Morsi. Agissant après l'énorme manifestation du 30 juin, organisée par le mouvement Tamarod, entre guillemets rébellion, et réclamant la destitution de Morsi, l'armée a pu présenter son action comme l'accomplissement de la volonté populaire. Elle y a été aidée par les forces politiques de gauche, nationalistes laïques ou simplement libérales, qui depuis 2011, en Égypte comme hors d'Égypte, ont contribué à la présenter comme l'exécutrice des volontés du peuple. Mais si les simples soldats sont effectivement très proches d'une population dont ils sont issus, comme dans toutes les armées, ce ne sont pas eux qui décident, mais l'état-major. Et celui-ci a évidemment bien d'autres objectifs que la défense des intérêts des couches les plus pauvres. En février 2011, le départ de Moubarak du pouvoir et son remplacement par un conseil supérieur des forces armées censé ouvrir la voie à la démocratie ont été le fruit d'une concertation entre les sommets de l'armée et les dirigeants de l'impérialisme américain. Il s'agissait de se débarrasser d'un dictateur honni de la population et de toute évidence politiquement usé, afin de mieux garder l'essentiel. C'était alors le meilleur moyen trouvé pour empêcher que le mouvement populaire, commencé sous le mot d'ordre général, entre guillemets, « dégage », ne débouche sur une désagrégation du pouvoir d'État et, finalement, sur une véritable révolution dans laquelle les différents intérêts de classe auraient pu chercher une expression politique. Le départ de Moubarak a été, au contraire, le début de l'opération permettant à l'armée de se présenter encore une fois comme, entre guillemets, le sauveur du peuple, de retrouver une partie du crédit perdu durant les années précédentes et de redevenir l'arbitre de la situation dans l'intérêt de la bourgeoisie égyptienne et de l'impérialisme. L'armée n'a d'ailleurs jamais vraiment quitté le pouvoir, même lorsque c'est un représentant des frères musulmans qui a été élu président à la suite des élections de juin 2012 et qui a tenté de remplacer les éléments de plus en vue de l'état-major par des hommes de son choix. La profondeur de la crise économique et sociale a entraîné un discrédit rapide du gouvernement Morsi. Celui-ci est apparu plus préoccupé de donner satisfaction à ses propres troupes réclamant l'application immédiate des préceptes islamistes intégristes que de trouver une issue à une crise aux conséquences dramatiques pour la population. Cela explique sans doute le succès de la campagne du mouvement Tamarod pour la destitution de Morsi. Cette campagne a d'ailleurs évidemment bénéficié du soutien de l'armée, même si d'ici il est difficile de dire avec quelle ampleur et dans quelle mesure ce soutien a compté. Le coup d'État du 3 juillet a évidemment marqué une étape du conflit entre l'armée et la confrérie des frères musulmans, c'est-à-dire entre les deux forces dont la rivalité forme depuis des années la trame de l'histoire politique de l'Égypte. Aux manifestations de riposte organisées par les frères musulmans a répondu une répression féroce de la part de l'armée, faisant un véritable bain de sang parmi les partisans de la confrérie et plongeant le pays dans une atmosphère de guerre civile. Néanmoins, au-delà du règlement de compte avec les frères musulmans, le coup d'État répondait à un problème plus fondamental de la bourgeoisie égyptienne et de l'impérialisme. Depuis plusieurs années, et même avant le départ de Moubarak, l'Égypte est entrée dans une période d'instabilité sociale. La multiplication des grèves a montré qu'une partie de la classe ouvrière ne supportait plus sa situation de misère et se sentait suffisamment forte pour exiger des améliorations, tout en restant sur un plan purement économique. C'est sur cette situation qu'est venue se greffer l'agitation d'une partie de la petite bourgeoisie ne supportant plus la dictature de Moubarak et le faisant savoir. Or, si le pouvoir peut envisager de donner quelques satisfactions superficielles à cette petite bourgeoisie, il ne peut pas satisfaire les revendications des plus larges masses populaires. L'avidité de la bourgeoisie égyptienne, le refus du grand capital impérialiste d'abandonner ne serait-ce qu'une partie de ses profits, ne le permettent pas. Le but principal du nouveau pouvoir militaire est donc de faire face à la montée des revendications populaires et, si possible, de la briser. L'armée n'a d'ailleurs jamais cessé d'agir, que ce soit sous Morsi ou avant ou après lui, contre les grèves et les mouvements spontanés des travailleurs égyptiens. Même si elle tente de se servir du crédit politique gagné dans l'opération du 3 juillet pour faire patienter les travailleurs, l'armée ne recule pas non plus et reculera sans doute de moins en moins devant la répression la plus directe. Après les affrontements d'août, le nouveau pouvoir a décrété le couvre-feu et a réinstauré l'état d'urgence. Celui-ci pourrait être maintenu, tout comme il l'a été pendant plus de 30 ans sous le règne de Moubarak, et cela ne vise pas que les frères musulmans. Le coup d'état du 3 juillet ne protège même pas la population contre les tentatives des religieux d'imposer leurs lois. Il a bénéficié du soutien ouvert de l'Arabie saoudite, en rivalité avec les frères musulmans, et le chef du coup d'état, le général al-Sissi, ne fera rien qui puisse mécontenter celle-ci. Par ailleurs, la répression violente exercée par l'armée contre les manifestations des frères musulmans est loin d'écarter le danger représenté par cette organisation réactionnaire et obscurantiste. Celle-ci garde une implantation profonde dans la population, notamment par le canal des organismes d'aide sociale qu'elle contrôle et qui sont, dans un grand nombre de pays musulmans, le principal point d'appui des organisations islamistes intégristes. Les dirigeants de la confrérie savent que le pouvoir militaire pourrait à son tour se discréditer rapidement et que cela sera peut-être pour elle l'occasion de revenir en force. Elle pourra alors s'appuyer sur des militants qui, après les journées sanglantes d'août 2013, sont sans doute radicalisés et ne demandent qu'à se venger des militaires, mais aussi des militants laïcs ou de gauche, ou bien de la minorité copte qui se sont placés du côté de l'armée. C'est ce qui peut faire peut-être rapidement non seulement la force des frères musulmans, mais même leur utilité pour la bourgeoisie. Dans le passé, le pouvoir égyptien a souvent alterné les phases de collaboration ouverte avec les frères musulmans et les phases de répression. Si le pouvoir militaire se révélait incapable à lui seul de tenir en respect les masses populaires, la confrérie pourrait être un recours pour les encadrer, étouffer leurs revendications et éventuellement les réprimer. En Égypte, comme en Tunisie, les classes dirigeantes sont encore bien loin d'avoir stabilisé la situation et maté les classes populaires. Cependant, la situation souligne déjà combien il est impossible d'envisager une amélioration réelle du sort des masses si elles ne sont pas en état de se donner des objectifs politiques révolutionnaires. Abattre l'état de la bourgeoisie, instaurer un pouvoir qui soit celui des travailleurs et des masses pauvres, mettre fin à la domination de l'impérialisme est la seule voie pour pouvoir donner satisfaction à leurs besoins les plus criants. Dans des pays pauvres comme l'Égypte, la Tunisie et la plupart des autres pays arabes, le combat pour les droits, les libertés démocratiques et la justice sociale ne pourra être mené jusqu'au bout que par le combat du prolétariat conscient en lutte pour son émancipation par l'expropriation de la bourgeoisie. En Syrie, une guerre civile désastreuse pour toute la population. C'est en Syrie que les suites, entre guillemets, du printemps arabe ont été les plus dramatiques, débouchant sur une guerre civile féroce. Aux premières manifestations populaires du début 2011, réclamant plus de liberté et de justice, a répondu une répression violente de la part du régime de Bachar al-Assad. Une rébellion armée s'est alors rapidement substituée à l'action des masses, mais avec des objectifs tout différents. Si les dirigeants occidentaux ont toujours su s'accommoder du régime des Assad père et fils, qui leur a rendu bien des services, ils ne pouvaient négliger l'opportunité de se débarrasser d'un régime nationaliste arabe resté allié de la Russie et de l'Iran et compliquant leur jeu dans la région. Cela était encore plus vrai des régimes voisins de la Syrie. Pour la Turquie, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Émirats, le régime d'Assad était un rival à abattre. Ces derniers ont donc fourni des armements aux groupes de volontaires ou de déserteurs de l'armée syrienne désireux de combattre Assad, établissant sur leur propre territoire des bases arrières pour ses combattants, tout cela avec l'appui des services occidentaux. En même temps, différentes manœuvres ont eu lieu pour créer un regroupement d'opposition d'allure démocratique et pouvant apparaître comme une alternative politique au régime. Le dernier en date a été la coalition nationale syrienne mise en place avec l'aide du gouvernement français et aussitôt reconnu par lui dans le cadre de ses efforts désespérés pour s'imposer comme partie prenante du conflit. Cependant, le régime d'Assad a montré des capacités de résistance inattendues, en tout cas pour tous ceux qui pariaient sur son écroulement rapide. D'autre part, au sein des volontaires acheminés par les bons soins de la Turquie, de la Jordanie et du Qatar, ce sont les combattants islamistes intégristes, y compris liés à Al-Qaïda, qui ont pris de plus en plus de poids. Ils se sont comportés comme une nouvelle dictature vis-à-vis de la population, liquidant leurs opposants, s'attaquant aux minorités religieuses et voulant imposer leurs lois à tous. Les groupes de la rébellion armée ont rejeté une partie de la population du côté du régime. Par ailleurs, la entre guillemets libération d'un quartier ou d'une ville a eu pour première conséquence d'en faire la cible des bombardements de l'armée d'Assad et d'être prise entre deux feux. L'opposition politique, regroupée dans la coalition nationale syrienne, est apparue dépourvue d'autorité sur ces milices, dont l'action s'apparente souvent au brigandage pur et simple. Pour la population syrienne, la guerre civile se solde par un immense désastre matériel, humain et aussi politique. Le mouvement populaire du début 2011 a été écrasé, non seulement par la répression violente du régime, mais par tous ceux qui ont prétendu l'aider. Les bandes armées soutenues par les régimes voisins se sont révélées tout aussi ennemies de la population que celles d'Assad. Celle-ci est devenue un simple jouet au milieu de toutes ces interventions dévastatrices. Quelle que soit la situation politique qui prévaudra à la fin de la guerre civile, ce sera un recul profond pour le pays et pour la situation morale et matérielle des masses populaires. De façon encore plus dramatique que dans le cas de l'Égypte, la crise syrienne illustre combien les masses populaires et la classe ouvrière des pays de la région ne peuvent espérer d'autre libération que celle qu'elles pourront conquérir elles-mêmes en se donnant leurs propres objectifs politiques et en luttant pour détruire, avec leurs propres moyens de classe, les appareils de répression que constituent les États de la région. Elle montre aussi, dans une région soumise au jeu d'États concurrents, tous plus ou moins manipulés par les grandes puissances, combien le prolétariat d'un de ces pays devra se donner immédiatement des objectifs vis-à-vis de la classe ouvrière des pays qui l'entourent, afin d'étendre sa révolution avant d'être submergé sous les interventions de ces États. La contagion qui s'est produite d'un pays à l'autre lors des événements du printemps arabe montre d'ailleurs que c'est non seulement une nécessité, mais une possibilité bien concrète dans une région et des pays dont les populations ont conscience que leurs destins politiques sont liés. La recherche d'un accord international impliquant la Russie et l'Iran. On assiste maintenant à des tentatives de règlement de la crise syrienne. En effet, les dirigeants des États-Unis ne peuvent désormais souhaiter une victoire de la rébellion armée, car elle pourrait aboutir à l'installation à Damas d'un pouvoir qui leur serait bien plus hostile que celui d'Assad. Par ailleurs, une victoire totale du régime d'Assad leur ferait perdre la face. De là découle la mise en scène orchestrée à propos des armes chimiques. Les dirigeants occidentaux ont tapé du poing sur la table contre le régime de Damas, accusé, à tort ou à raison, de les avoir utilisés contre la population. Ils l'ont mis en demeure de renoncer à ses armes, tout en se gardant bien d'en faire autant à propos des armes conventionnelles, pourtant déjà responsables de dizaines de milliers de morts. Par l'entremise de la Russie, le régime d'Assad a alors pu leur donner la satisfaction de renoncer à ses armes, qui de toute façon n'ont pas pour lui une importance décisive. Ce jeu de rôle sert en fait à dissimuler le recul des dirigeants occidentaux et leur tentative de parvenir à un accord avec le régime d'Assad sous la garantie de ses alliés russes et iraniens. Une, entre guillemets, « solution politique » serait trouvée sous la forme d'un simulacre d'évolution du régime par la participation de quelques groupes d'opposition assortis de la promesse de tenir des élections. Elle devrait alors ouvrir la voie à des discussions sur les conditions de la reconstruction du pays, sur les marchés qui pourraient en découler pour les entreprises américaines ou russes, et sur les pays qui pourraient être sollicités pour la financer, comme par exemple l'Arabie Saoudite et les Émirats. L'avenir dira si un tel accord sera finalisé. Les discussions peuvent être longues, et la guerre civile pourrait donc se poursuivre encore longtemps, avec toutes les destructions et les souffrances qu'elle implique pour la population. Le plus difficile pour les États-Unis sera sans doute de faire accepter un tel accord à ses alliés. Ainsi, les principales oppositions à la tenue d'une conférence de paix dite Genève II viennent pour l'instant de la coalition nationale syrienne ainsi que de l'Arabie saoudite et de ses alliés. En effet, un accord avec le régime Assad sous la supervision des États-Unis, de la Russie et de l'Iran serait un fiasco pour la Turquie, l'Arabie saoudite et les Émirats. Il les obligerait à couper les vivres à des groupes armés qu'ils ont contribué à former et à équiper. Quant à ces groupes armés eux-mêmes, dont les djihadistes semblent maintenant constituer la plus grande part, rien ne dit qu'ils se laisseront mettre facilement à la raison par leurs protecteurs ou par la coalition nationale syrienne, si même celle-ci voulait tenter de faire preuve d'autorité. Un rapprochement a aussi été amorcé entre les États-Unis et l'Iran à l'occasion de la venue du nouveau président iranien Rouhani à l'Assemblée générale de l'ONU. S'il a été permis par le fait que Rouhani se présente comme un modéré partisan d'une ouverture, il correspond aussi à un infléchissement de la politique des États-Unis. Le chaos syrien est venu s'ajouter à d'autres en Irak et en Afghanistan, provoqués eux aussi par les interventions américaines. Les dirigeants des États-Unis ont été suffisamment échaudés par ces expériences pour exclure de se lancer dans de nouvelles aventures militaires et pour qu'ils cherchent des moyens de se sortir du bourbier qu'ils ont créé. Si un accord intervenait avec des puissances comme l'Iran et la Russie, elles pourraient accepter de se faire les gardiennes d'un équilibre entre les États de la région. En collaboration avec les États-Unis et les autres États occidentaux, elles pourraient utiliser leur influence pour contrer ou tenter de contrôler les différentes tendances djihadistes et leur rôle déstabilisant. Cependant, un tel accord, qui serait le prolongement de celui en cours à propos de la Syrie, pourrait être et serait un motif de mécontentement de plus pour les alliés des États-Unis, Arabie saoudite, Turquie et Émirats, pour qui l'Iran est avant tout un rival. Pour les dirigeants américains, trouver un accord avec la Russie et l'Iran sans désavouer trop ouvertement de tels alliés relèvera de l'équilibrisme. Les pourparlers israélo-palestiniens. Mais ce qui précède est encore plus vrai avec les dirigeants israéliens. Depuis des années, ceux-ci ne cessent de dénoncer le régime iranien, l'accusant de vouloir se doter d'un armement atomique pour pouvoir détruire Israël. C'est également le prétexte invoqué depuis des années par les dirigeants occidentaux pour dénoncer l'Iran et le soumettre à des sanctions. Pourtant, ce prétexte pourrait être rapidement oublié si c'était nécessaire pour faciliter un accord. Quant aux menaces des dirigeants israéliens d'intervenir militairement contre les installations nucléaires iraniennes, elles ne seront certainement pas mises à exécution si les États-Unis s'y opposent. Les dirigeants israéliens n'en restent pas moins opposés au rapprochement avec l'Iran, qui sonne pour eux comme un désaveu et dans lequel ils craignent de perdre un peu de leur position d'allié privilégié des États-Unis. La réorientation de la politique des États-Unis, si elle se confirme, n'ira certes pas jusqu'à abandonner un allié israélien qui leur a toujours été très utile. Cependant, ils voudraient aussi obtenir d'Israël quelques gestes pour donner un peu de crédit à la relance des négociations israélo-palestiniennes. Il ne s'agirait sans doute que de quelques gestes symboliques, tels que le gel des implantations dans les territoires occupés ou quelques allégements au régime d'occupation, et il serait bien loin de fournir réellement la base d'un début de règlement israélo-palestinien. Mais cela serait suffisant pour créer des problèmes politiques à des dirigeants israéliens soumis à la surenchère permanente de leur droite et de leur extrême droite. Dans tous les cas, il n'y a rien à attendre de ces pourparlers quant à la satisfaction des revendications du peuple palestinien. En outre, celui-ci pourrait, comme toujours, être le grand oublié d'un accord entre les dirigeants impérialistes et ceux des États de la région. Pour ceux-ci, de l'Iran à la Turquie, aux Émirats ou à la Syrie, la défense des droits du peuple palestinien n'a jamais été qu'un article de démagogie à l'égard de leur propre opinion publique, pratiquement sans implication réelle. Comme pour les autres peuples de la région, le combat du peuple palestinien pour ses droits se confond avec le combat du prolétariat conscient de tout le Moyen-Orient pour son émancipation contre des États oppresseurs, concurrents, mais qui, d'Israël à la Turquie et de l'Arabie saoudite à l'Égypte, collaborent tous à leur façon au maintien de la région sous la domination impérialiste. L'Afrique sur le chemin tortueux du développement inégal. L'Afrique est parfois présentée, depuis quelques années, comme un futur espoir pour la croissance mondiale, en raison de son taux de croissance qui serait en moyenne de 3%, supérieur à celui de l'Europe. La richesse de l'Afrique étant constituée pour l'essentiel de ressources naturelles, cependant tous les pays d'Afrique n'en sont pas pourvus, il suffit qu'une richesse minière, jusque-là non exploitée, commence à l'être, généralement au profit d'une multinationale d'un pays impérialiste, pour que le PIB du pays africain s'accroisse brusquement. Mais la possession de matières premières qui intéresse le capital occidental a toujours été une malédiction pour la majorité des populations autochtones. L'exploitation des mines de fer en Mauritanie, de bauxite en Guinée, du pétrole au Nigeria, en Angola ou au Gabon, de l'uranium au Niger, a permis l'enrichissement d'une mince couche de privilégiés locaux, occupant généralement les sommets de l'appareil d'État ou cadres et intermédiaires autochtones pour le compte des entreprises occidentales. En revanche, non seulement la population locale n'en a que très peu de retombées, mais elle en subit même les conséquences délétères. De la transformation du delta du Niger pétrolifère en poubelle, rendant la pêche impossible pour les populations locales qui en vivaient, à l'expropriation de la population paysanne là où la terre est convoitée par une grande société. Et, partout, là où se crée un nouveau foyer du capitalisme, les prix s'envolent, aggravant encore la pauvreté de la majorité. Dans bien des pays d'Afrique, l'exploitation des richesses minières ou naturelles non seulement se traduit par des prélèvements au profit des grandes sociétés, mais alimente aussi des guerres civiles. Derrière la guerre ethnique en Sierra Leone, il y avait le diamant. Derrière celle au Liberia, s'y ajoutait l'exploitation des bois exotiques. Et si le Congo-Kinshasa ex-Zaïre est déchiré pour ainsi dire en permanence par des affrontements entre bandes armées, c'est qu'il est un des plus riches pays du monde de par ses ressources minières, ce véritable, entre guillemets, « miracle géologique » dont parlent les géographes. D'après la Croix-Rouge, ces guerres auraient fait, entre 1996 et 2006, 4 millions de morts, et elles sont loin d'être terminées. Mais un certain nombre de grandes sociétés occidentales spécialisées dans le cuivre ou le diamant, sans parler des fabricants d'armes, continuent à s'enrichir pendant que les populations des zones d'affrontement s'enfoncent dans la barbarie. Les pays d'Afrique, riches en ressources naturelles comme la plupart des pays pauvres producteurs de matières premières, ont été intégrés dans leurs relations commerciales internationales en tant que pays dominés dépendant des pays impérialistes. Ce qui caractérise les échanges entre les deux parties, c'est l'échange inégal, c'est-à-dire un échange où les pays pauvres doivent fournir toujours plus de matières premières en contrepartie de toujours moins de produits industriels. La financiarisation de l'économie ajoute cependant une dépendance supplémentaire des pays pauvres aux pays riches. En plus de ce véritable pillage qu'est le mécanisme de l'échange inégal, les pays producteurs de matières premières subissent les contre-coups de la spéculation financière. Lorsque la spéculation fait augmenter le prix d'une matière première, ce sont les grandes entreprises du négoce international, voire les banques et les entre guillemets, « hedge funds » qui empochent le surplus. En revanche, lorsque les prix s'écroulent, ils entraînent la chute des recettes de l'État. Mais l'aspect le plus dramatique de la financiarisation, ce sont les variations de prix que les spéculations entraînent et qui se manifestent par le fait qu'une partie plus ou moins importante de la population est poussée vers la famine. L'histoire récente de plusieurs pays d'Afrique est marquée par des émeutes de la faim. Ceux qui parlent de l'Afrique comme d'un nouvel Eldorado de la consommation n'ont cependant pas complètement tort. Mais qui en profitera ? Un peu les couches privilégiées des pays africains, mais, là encore, surtout un certain nombre de grandes entreprises occidentales. Bien que partant d'un niveau très bas, l'Afrique est en effet un marché en augmentation du fait de sa croissance démographique, la plus importante de tous les continents, du fait aussi de son urbanisation galopante. Les grandes villes africaines explosent. Lagos, au Nigeria, a 12 millions d'habitants. Kinshasa, au Congo ex-Zaïre, 10 millions. Poussée vers les villes par la pauvreté, voire la famine, la population des campagnes abandonne les villages et par là même l'autosubsistance pour devenir une clientèle potentielle intégrée dans l'économie de marché. Aussi basses que soient les sommes qu'ils parviennent à gagner, quelques euros par jour, les habitants des quartiers populaires ou des bidonvilles constituent quand même un marché par leur nombre. L'économie capitaliste a une longue expérience pour ce qui est de gagner de l'argent sur le dos des plus pauvres. Même un cabanon dans un bidonville nécessite du ciment et de la tôle ondulée qu'il faut acheter. Les grands trusts de la téléphonie parviennent à faire sortir les derniers sous de la poche d'un salarié mal payé pour lui vendre un téléphone portable. Le développement d'une population nombreuse, même à faible pouvoir d'achat, entraîne le besoin d'un minimum d'infrastructures et d'équipements, au moins pour les moins pauvres des pauvres. Il n'est pas étonnant qu'un des hommes les plus riches de France soit Bolloré, qui s'est enrichi surtout en Afrique et possède quelque 70 sociétés dans 35 pays, en situation de monopole dans plusieurs d'entre eux, dans les domaines du transport, de la manutention portuaire, du chemin de fer, des navires, sans parler de ses plantations d'EVA, de palmiers, de bananiers et de ses exploitations forestières. Ces activités en entraînent d'autres, laissées à la petite bourgeoisie locale, autochtone ou venue d'ailleurs, qui, à son tour, constitue une clientèle pour les supermarchés, voire pour les boutiques de luxe. Le développement qui en résulte est surtout, entre guillemets, le développement du sous-développement, c'est-à-dire un développement inégal qui creuse l'écart entre les villes au développement explosif et les campagnes laissées à l'abandon, et à l'intérieur même des villes. Dans les grandes villes africaines, des buildings modernes sont érigés à côté de quartiers lépreux, des villas pour riches côtoient des bidonvilles. Il y a aussi un développement inégal entre les différents pays et les diverses régions du continent africain. Seuls deux pays, l'Afrique du Sud depuis longtemps et le Nigeria depuis peu, ont connu un certain développement industriel. Ils font également partie des pays dont la population est la plus nombreuse. Mais il y a d'importantes différences également entre les autres pays d'Afrique noire. Pour ne parler que de l'ex-empire colonial français, il y a des différences sensibles dans le degré d'arriération entre, d'un côté, des pays comme le Tchad, la Centrafrique ou le Mali, pratiquement pas industrialisés, le Gabon, intégré dans l'économie mondiale comme pur producteur de matières premières, pas seulement le pétrole, mais aussi le manganèse et les bois tropicaux, et à plus forte raison Djibouti, simple pied-à-terre pour l'armée française, et de l'autre côté, un pays comme la Côte d'Ivoire. Cette dernière, disposant d'un port et de quelques infrastructures de transport qui desservent d'autres pays limitrophes, attire depuis plusieurs années des investisseurs occidentaux, malgré les soubresauts de sa vie politique depuis la mort de Oufouette Boigny. Abidjan est devenue une ville tentaculaire de 4,3 millions d'habitants, 20% de la population du pays, et même 6,7 millions pour l'agglomération. Elle continue à enfler à grande vitesse. Une ville qui a vu pousser des entreprises et des zones industrielles avec des usines modernes, parfois autant et plus que leurs semblables du même secteur dans les vieux pays industriels, mais avec des ouvriers payés 10 fois moins qu'en Europe. La Côte d'Ivoire symbolise en quelque sorte le meilleur du développement que le capitalisme réserve aux pays d'Afrique. Les usines modernes poussent dans un environnement aux infrastructures mal entretenues ou inexistantes. La modernité côtoie l'arriération. Des fortunes rapides s'édifient de façon visible et révoltante parmi une majorité de travailleurs survivant à peine, dépourvus de tout. Même là où développement industriel il se produit au milieu de l'arriération générale sur le plan matériel comme sur bien d'autres plans, culturels ou moral. Les structures sociales les plus archaïques, chefferies, royautés, etc. sont revivifiées et se surajoutent aux fonctions de l'État bourgeois d'aujourd'hui. Les coutumes les plus arriérées sont reprises et propagées par de prétendues élites qui ont fait leurs études dans les universités des pays impérialistes. Mais la simple concentration de plusieurs centaines, voire de milliers d'ouvriers, dans les mêmes entreprises et les mêmes zones industrielles, crée une situation explosive. C'est un prolétariat moderne, nullement résigné, mais en même temps sans tradition politique. Il est sans doute permis d'extrapoler la situation de la Côte d'Ivoire à l'ensemble des pays africains, en tout cas aux pays où la pénétration capitaliste a créé des entreprises industrielles. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans bien d'autres pays de la partie sous-développée de la planète que le développement capitaliste a créé un prolétariat moderne, mais vivant dans les mêmes conditions que le prolétariat de Manchester ou de Liverpool à l'époque de la révolution industrielle. Les combats, les révoltes de ce prolétariat des pays pauvres passent difficilement et rarement le filtre des médias bourgeois des pays occidentaux. Minoritaires dans chacun des pays pris séparément, pas plus que le prolétariat de ce grand pays arriéré qu'était la Russie de la Révolution de 1917, le prolétariat est infiniment plus nombreux, globalement, que celui du XIXe siècle dans les rares pays d'Europe qui s'engagèrent alors dans la révolution industrielle. Le prolétariat industriel moderne vit, dans tous les pays sous-développés, dans les mêmes quartiers et les mêmes bidonvilles que les innombrables pauvres des pays à qui le capitalisme ne donne même pas la possibilité de trouver une place dans les grandes entreprises, les grands chantiers ou les mines. Dotés d'une conscience de classe et d'organisation capable de défendre une politique correspondant à ses intérêts, le prolétariat moderne de ces pays devra tout naturellement prendre la tête d'une mobilisation révolutionnaire entraînant les pauvres des villes et des campagnes, d'autant plus que les grandes plantations capitalistes, EVA, palmiers à huile et bien d'autres, qui se multiplient dans nombre de pays pauvres, ne font pas que détruire la nature et chasser la population pauvre. Elles font surgir un prolétariat agricole plus exploité encore que le prolétariat urbain. C'est l'ensemble de ce prolétariat, avec celui des vieux pays capitalistes, qui représente l'avenir. Le prolétariat naissant d'Europe occidentale a mis à son époque plusieurs décennies à accéder à la conscience que sa lutte de classe ne pourrait aboutir qu'avec la destruction de l'ordre capitaliste. Il a fallu, pour cela, l'apport de Marx et des révolutionnaires communistes de cette époque. Plusieurs décennies d'histoire du prolétariat naissant ont été marquées par des luttes parfois stériles comme le bruit des machines et limitées au début à différentes formes d'entraide pour qu'émerge une conscience de classe et pour que le marxisme trouve, dans l'analyse du fonctionnement de l'économie capitaliste, les bases objectives de l'aboutissement de la lutte de classe, la révolution socialiste. Le stalinisme a rompu la chaîne de transmission de l'expérience des luttes de classe d'un prolétariat de plus en plus mondialisé, comme l'est l'économie capitaliste qui l'a suscité. Dans les pays entraînés dans le développement capitaliste bien après l'époque de Marx, voire après la révolution de 1917, la transmission de la tradition révolutionnaire du mouvement ouvrier aurait sans doute évité bien des tâtonnements aux jeunes prolétariats de ces pays. Aujourd'hui, cette tradition et des organisations pour l'incarner combattraient, du point de vue des valeurs du mouvement ouvrier, les traditions réactionnaires que le retard de la révolution fait partout ressurgir du passé. Le prolétariat des pays pauvres trouvera cependant son chemin, comme le prolétariat des vieux pays industrialisés devenus impérialistes doit retrouver le sien. La bourgeoisie n'arrêtera pas l'histoire, quand bien même elle a sauvé son système de domination bien au-delà de ce qu'avaient imaginé les communistes révolutionnaires du passé. Nous avons répété bien souvent que la construction d'un parti révolutionnaire est inséparable de celle d'une internationale. Nous ne savons pas quel rôle une petite organisation comme la nôtre peut jouer dans la transmission des traditions communistes révolutionnaires. Nous savons encore moins par quel chemin passera la renaissance du mouvement communiste international. Mais nous devons raisonner et militer en fonction des intérêts et des possibilités du prolétariat international, en sachant que, tôt ou tard, les forces susceptibles de renverser le capitalisme se frayeront leur chemin.